tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Voyage aujourd'hui dans le temps et dans l'espace à travers l'immense empire romain, cet empire dont nous avons été les sujets pendant de nombreux siècles, véritable prototype de mondialisation puisqu'il s'étendait de l'Écosse jusqu'en Égypte et même jusqu'en Inde. Ce voyage, nous le faisons en compagnie du paléontologue, homme de télévision, raconteur d'histoire plurielle au sein de la grande histoire, Alberto Angela, qui est de passage à Paris, pour la sortie, déjà d'ailleurs ancienne, de quelques semaines de son livre « Empire, un fabuleux voyage chez les Romains avec un sesterce en poche » chez Payot. Les voyages d'une modeste pièce d'un sesterce de bronze à travers un empire qui nous ressemble de manière étrange, dont nous sommes issus. C'est le roman de l'histoire, une histoire incarnée que Alberto Angela, vous excellez à rendre accessible et même familière. Bonsoir.
Bonsoir à vous et à tous.
Alors c'est... On entendait vous...
Oui.
Hein, la pièce roulée.
Ah, c'est ce genre de voyage qui est impossible. Enfin, il n'y a pas d'agence de voyage qui puisse vous proposer un voyage dans le temps de ce type et qui coûte seulement un sesterce. Un sesterce, ça valait...
C'est pas grand-chose.
Ouais. 2 euros, plus ou moins. À l'époque, j'explique, parce qu'à l'époque de Pompéi, ça valait plus ou moins 6 euros. Dans mon époque, qui est quelques dizaines d'années après, on parle de l'époque de Trajan, donc on est dans le 115, 117 après Jésus-Christ, et ben ça vaut 2 euros. Avec un sesterce, vous pouvez acheter 2 kilos de pain, une bouteille de vin ordinaire ou un seul verre de vin de bonne, du genre Falernum, enfin de bonne qualité, ou avoir 4 relations avec des prostituées. C'était plus ou moins
oui,
ça.
Oui, alors justement, ça revient beaucoup. On va en dire un mot. Le vin et les prostituées, la sexualité en général est très, très présente. Mais pourquoi autant de Trajan, donc début du 2e siècle après Jésus-Christ? Pourquoi avez-vous choisi cette époque?
J'imagine que si on devait aller dans le temps, à l'arrière, au Moyen-Âge, Renaissance, on choisirait la période la plus belle. Et l'époque de Trajan, c'est le moment où l'Empire romain touche son apothéose. Au temps de César ou de Néron, vous n'aviez pas le Colisée, par exemple, et l'Empire n'était pas si étendu. Mais c'est Trajan qui étend l'Empire d'une manière qu'on voit dans nos livres d'histoire. Jusque toute la Mésopotamie était romaine. On touchait le Golfe, on touchait l'Iran d'un côté, de l'autre on allait jusqu'à l'Écosse. Et c'est intéressant de voir que l'Empire romain, finalement, était aux alentours de la Méditerranée. L'Empire touchait 3 continents. Et finalement, aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire, pour la première fois, la Méditerranée était dans un seul empire et ça n'a plus été le cas. Et aujourd'hui, l'Union européenne, c'est vers le nord. C'est plutôt le continent européen.
Alors, on va parcourir quelques-unes des étapes, pas toutes, bien sûr. Et ça va nous donner cette vision panoramique de l'Empire au début du 2e siècle avec des traits communs. Et c'est un des aspects tout à fait étonnants et attachants de ce livre. C'est qu'il y a du pain, il y a du vin. Le vin est omniprésent. Partout dans l'Empire, on boit du vin.
Absolument. Et on peut d'ailleurs demander le même vin dans un restaurant je sais pas, au nord d'Afrique, en Alexandrie, ou bien à Rome, ou bien à Paris, à Lutèce, ou à Londres. C'est-à-dire, il y a une grande mondialisation, c'est-à-dire, on trouve les mêmes produits partout, c'est la même culture, les villes sont faites de la même façon, et surtout, il y a une monnaie, c'est-à-dire le sisters, enfin le système.
Une monnaie unique.
Une monnaie unique. Il y a un système de loi. Il y a une langue, plutôt deux, parce que le grec était fondamental pour la partie orientale de l'Empire, c'est-à-dire la Méditerranée vers l'Orient. Et finalement, donc, les Romains étaient bilingues. C'est ça qui enfin, les Romains d'un certain niveau, naturellement. Et on trouve donc un monde qui est identique au nôtre. Ça fait qu'une tunique était tissue avec un lin. Le lin était cultivé en Égypte, tissu à Rome, et la tunique vendue en Gaule, par exemple. Donc, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec nos chemises ou nos pantalons. C'est une mondialisation. Et on trouve les mêmes problèmes, les mêmes solutions. Alors, on se demande, bon, naturellement, les Romains, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas d'essence, mais comme on dit, ils avaient des idées. Et finalement, ils avaient Internet, mais d'une façon très physique, c'était les routes. 80 000 kilomètres, c'était un web, effectivement, qui couvrait tout l'Empire. Et sur ces routes, circulait exactement la même chose qui circule dans l'Internet, c'est-à-dire des nouvelles, du commerce, des idées, des nouveautés, des modes, etc.
Alors, une monnaie donc qui circule partout, des moyens de transport très au point et un empire très, finalement, à la fois structuré et décentralisé, c'est-à-dire des modes de pouvoir qui sont spécifiques à l'Empire romain. Et oui. Notamment une absence, c'est très intéressant, une absence de racisme au sens où c'est une société extrêmement structurée, chaque couche sociale, mais en revanche, elle ignore la dimension raciale.
Absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'Empire romain un peu comme un monde qui nous ressemble beaucoup et que les Romains ont déjà parcouru en nous donnant des solutions. Naturellement. On parle d'une époque il y a 2000 ans. Il y avait l'esclavage, il y avait des massacres aux frontières. C'est un monde terrible, avec des fauves dans le Colisée. Enfin, attention, c'est pas le monde idéal. Mais on voit quand même des lueurs d'un monde moderne. Alors, par exemple, ils avaient compris qu'il y avait des choses à ne pas toucher. Bon. Le racisme, ça n'existait pas. Je rappelle qu'il y a...
On est d'un milieu, en fait, on est d'une couche sociale,
exactement.
Beaucoup plus que d'une couleur de peau.
Absolument, c'est le niveau social, donc les sesterces qui comptent. Mais par ailleurs, je fais un exemple, il y a, comme aujourd'hui, personne n'est méprisé pour la couleur des yeux. Pour l'Empire romain, c'est la même chose. La couleur de la peau n'est pas un problème. Et je fais un exemple, c'est Septime Sévère, c'est un des meilleurs empereurs. Il venait de la Libye, il parlait mal le latin, avec un fort accent libyen. Sa sœur ne parlait absolument pas le latin, il a dû la renvoyer chez elle, en Libye. Et lui, ça a été un des meilleurs empereurs, et c'était un Obama. Il avait une couleur de la peau qui était absolument semblable à celle d'Obama.
Rome sans frontières, dans les coulisses de l'Empire. Nous sommes en compagnie d'Alberto Angela qui publie justement Empire, un voyage à travers toute la partie de la planète sous l'emprise de Rome au début du deuxième siècle de notre ère, sous le règne de l'Empire Trajan. Alors on va partir avec vous, Alberto Angela, dans diverses directions et on va commencer par aller vers le nord de cet empire, en direction notamment de la Bretagne avec un grand B, puisque nous atterrissons à Londres, Londinium, où déjà se trouve ce pont et une ville qui est une petite bourgade à l'époque.
Absolument. Le pont était en bois, mais c'était déjà le symbole d'une économie très, très agressive. Rome avait fondé Londres parce que c'était un point du fleuve.
De rétrécissement.
Ouais, ouais. C'était facile d'y arriver par bateau et on pouvait même attraquer. Et là, c'est là que naît Londres. Londres, au début, c'est une ville du Far West.
Vous devez penser. C'est une ville celtique à l'époque.
Absolument.
Puisqu'il n'y a pas encore d'Angles et de Saxons.
Non, non.
Ils sont encore très loin.
Exactement,
dans le nord.
Mais l'atmosphère qu'on avait, c'est un peu comme les films comme les romans de Jack London. C'est-à-dire, c'est une ville faite en bois. Il y a de la boue dans les rues. On rencontre un monde qui est fait de, pas de Romains, mais surtout de populations celtiques. Sûrement, il y avait des langues diverses, c'était cosmopolite, c'est un peu comme le Londres actuel. Et finalement, c'est intéressant de voir que le premier noyau de cette ville, c'est où aujourd'hui il y a la city, c'est-à-dire la partie économique, c'est resté comme ça. Et naturellement, ce qui m'a frappé, c'est de voir que les Romains construisaient les bâtiments d'une façon absolument moderne. C'est-à-dire les parois étaient déjà constituées, disons, quelque part, on l'amenait et on montait le tout.
C'était préfabriqué.
Ouais, préfabriqué. Et c'est ça qui frappe. C'était un monde très moderne, d'une vision très moderne, mais pourtant nous sommes dans un siècle après la naissance de Christ.
On retrouve à Londres, comme dans tout le périple, un certain nombre d'esclaves et on s'aperçoit qu'être esclave n'est pas forcément une mauvaise position car il y a dans le statut d'esclave divers degrés et le degré supérieur est relativement enviable.
Absolument. Disons que être esclave pour nous et pour d'autres périodes dans le temps est un synonyme de quelque chose de négatif. On est utilisé pendant toute la vie. C'était la même chose en époque romaine, mais il y avait des exceptions. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on était esclave peut-être pour quelques années, puis on était affranchi, et de là partait une nouvelle vie. Et du moment que, quand l'esclave était affranchi, il avait quand même des liens avec son dominus, il devait quand même lui payer une espèce de taxe, enfin, lui donner de l'argent, etc. Mais il pouvait avoir son petit magasin commencer, et il avait une force, une envie de faire des sesterces, et de reprendre une vie, et c'était là une lymphe de la société romaine. Parce que c'était une société qui commençait à ne plus faire des fils, les mariages étaient il y avait moins de mariages, moins de fils, beaucoup de divorces. Donc, c'était une sorte de lymphe qui retournait dans la société. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ex-esclaves, ils avaient déjà une mentalité très romaine. Donc, c'était comme une école pour devenir romain. Et donc, la société romaine cédait elle-même. Et c'était donc, ce qui est intéressant, c'était que c'était une société multi-ethnique, mais pas multiculturelle. Il y avait une seule culture. C'est exactement quand on va sur l'autoroute. Il y a des règles à suivre et c'était la même chose. Et c'est ça qui est très intéressant. Bon, je parle des esclaves de famille, dans les villes, de certains esclaves. D'autres, malheureusement, ils avaient un autre sort, surtout ceux qui travaillaient dans les campagnes. Ils étaient surexploités jusqu'à la mort. Et surtout, c'était des objets. Donc, on trouve des esclaves qui sont jetés comme ça dans les colisées, dans les amphithéâtres pour que les gens rient de leur mort, c'est ça.
Alors, au cours des pérégrinations de cette pièce d'un sesterce qui passe dans diverses bourses, dans diverses poches, donc on va monter vers le nord, puisque vous voyagez pas mal aux limites de l'Empire et de Londres, justement, on va vers les frontières où se trouvent les redoutables Calédoniens, qui eux sont, donc c'est quoi, c'est les Écossais, sont
oui,
les Celtes
disons c'est des Écossais, et c'est les Pictis. Comme ça, ils appelaient les Romains, ou plutôt certains auteurs romains,
les Pictes,
oui. Parce qu'ils avaient des tatouages sur le visage.
C'est les hommes peints en bleu, alors dont parlait déjà César.
Exactement, en bleu ou en vert. Et c'est ça, ils étaient impressionnants pour les Romains. Ils ont bâti, mais pas à cette époque, plus tard, avec Adrien, le fameux mur. Et c'était le limes. Et c'était une peuplade qui n'a jamais été conquise. Finalement, il y a eu, au-delà du mur d'Adrien, des expéditions, Claude et Tibère, enfin. Mais finalement, c'est une partie de l'Europe qui est toujours restée libre.
Alors on découvre justement les postes éloignés de la puissance romaine et un certain nombre de forts avec des garnisons. Et on voit qu'il y a dans ces garnisons des soldats qui viennent justement du pays. C'est-à-dire que on voit bien que les Romains ont pratiqué l'art de jouer les uns contre les autres.
Absolument. C'était des alliés, donc des ex-ennemis. qui étaient encadrés dans les légions. D'habitude, c'était la première ligne, c'était des alliés. Donc, c'était des barbares contre des barbares, finalement, si on veut utiliser ce terme. J'aime pas parler de barbares parce que c'est toujours des populations avec des cultures. Donc, mais bon, ça c'est le... D'ailleurs, le terme barbare, c'est un terme grec. Et les Grecs parlaient de populations qui parlaient une autre langue de cette façon. Ils disent quelque chose, ils font des ba-ba-ba-ba. C'est pour ça qu'ils appellent barbares. Bon, en fait, mais dans ces garnisons, ce qui est intéressant, c'est une de ces garnisons qui se trouvait dans le fort de Vindolanda. C'était vraiment un fort aux confins du monde. Et là, il y avait le commandant, qui avait une femme avec un fils. Et on a trouvé des lettres. Et intéressant ce fait. Ils abattaient les maisons fréquemment parce que bon, l'air était humide, c'est le bois pourrissait, il fallait remettre. Et ils mettaient de l'argile par terre. Donc, tout ce qui était en dessous de l'argile s'est maintenu. Alors, ils ont jeté des lettres, des documents dans un feu.
Qui étaient sur quel support, ces lettres?
Ah, c'était des écorces, je sais pas si d'érable ou de boule. Enfin, c'était des écorces d'arbres. Et ils ont fait un petit feu pour brûler tout ça. Mais il y a eu une pluie qui a éteint le feu. Ils ont jeté de l'argile dessus. Et tout ça, ça fait que sous l'argile, il n'y a pas d'oxygène. Les bactéries n'ont pas détruit ce qu'il y avait. Donc, résultat, on a ces lettres de soldats de la frontière, il y a vraiment de tout, mais aussi des lettres, par exemple, de la femme du commandant vers la femme d'un autre commandant, et c'est la plus ancienne lettre d'une femme vers une femme qu'on connaisse, et c'est émouvant de lire ces lettres qui se sont, ces écorces sont très très fines.
Ce sont des lettres que recevaient les Romains sur place.
Et qui, ouais, exactement.
Et des lettres en partance aussi.
Oui, oui. Et celle qui m'a le plus ému, c'est pratiquement une copie. C'est un devoir du fils du commandant. Et donc, il y avait un maître, un esclave grec, j'imagine, qui lui dictait Virgile. Parce que Virgile était enseigné même aux confins de l'Empire. Et on voit ce gamin qui écrit Virgile, fait des erreurs. Et d'un côté, il y a sa version, de l'autre, c'est la version correcte. Et c'est vraiment frappant de considérer que le commandant obligeait son fils à connaître Virgile, même s'il était aux confins du monde.
Tu feras ton Virgile.
Voilà.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Sans frontières. Dans les coulisses de l'Empire, nous sommes en compagnie d'Alberto Angela, qui est paléo-anthropologue, mais qui a aussi une fibre de romancier pour nous raconter les voyages et les tribulations de cette pièce de 1 sesterce de bronze, pièce modeste qui voyage dans diverses poches et dans les besaces de certaines selles de chevaux à travers tout l'Empire. Alors, bon, il y a ce face-à-face avec les barbares germaniques et celtes, et puis cette pièce voyage vers l'horizon méditerranéen. Alors, bien sûr, elle passe pas mal de temps à Rome et puis elle va quitter Rome. Donc, on la retrouve au port d'Ostie, un port absolument trépidant avec une énorme activité où de nombreux navires sont en partance pour des voyages à très haut risque.
Ah oui. Alors, c'est intéressant de voir un peu la manière avec laquelle les Romains, enfin les anciens, les antiques, voyageaient. Alors, la première question, est-ce qu'il y avait des touristes? Oui, mais pas le genre de tourisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on se déplaçait pour... Bon, parce qu'on était des militaires, parce qu'on était des pèlerins, il fallait qu'on aille dans des sanctuaires. Et surtout, il y avait des médecins. Et là où ils allaient, ils étaient obligés d'aller pour des questions, même quelquefois de famille. Bon, mais là, ils visitaient ces lieux. Et il y avait, ce qui est intéressant, c'est que la Méditerranée était coupée en deux. Si vous vouliez aller dans des sites historiques, vous deviez aller vers l'Orient. Parce que là, il y avait la cité de Troie, il y avait Athènes, il y avait Alexandrie. Pour les Romains, c'était vraiment les racines de leur culture. Mais à gauche, c'est-à-dire vers l'Ouest, qu'est-ce qu'il y avait? C'était un peu comme aller aux États-Unis maintenant. C'est-à-dire, il n'y avait que des villes modernes. Donc les Romains, ils n'étaient pas vraiment censés d'aller en Angleterre, en Allemagne. C'est du moderne. Si on veut voir la mythologie et les vestiges, ou des tableaux fabuleux, ou des statues, c'est vers Orient qu'il faut aller. Donc, comment est-ce qu'on voyage? Les Romains n'aimaient pas tellement l'eau. Et en plus, j'ai remarqué que pour voyager, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de billets. Il suffisait d'aller au port et d'attendre qu'un voilier aille à Alexandrie, par exemple. Ou à Carthage. Et ça prenait quelques jours. On attendait. Il fallait payer une somme. Mais il n'y avait pas de cabine. On dormait sur le pont. Sur le pont. Il fallait même penser à quelque chose à manger. Et s'il pleuvait, c'était ça. On était comme un sac, marchandises. Et puis, pour monter à bord, on partait, tout dépendait de la météo. Primo, de secondo, du jour, il y avait des jours positifs et négatifs, il fallait voir ça. Je sais pas, en Italie, on dit qu'il faut jamais se marier le mardi et le vendredi. C'est des traditions, ça ne veut rien dire, mais là aussi, il fallait pas partir certains jours.
Il fallait prendre les augures aussi.
Et voilà, il fallait faire des sacrifices, voir si l'animal...
Parce que la magie est très présente dans le quotidien.
Absolument, c'est la superstition. Et c'était une société... pas technologique, mais pas scientifique. Donc, il y avait pas mal de dieux qui expliquaient divinité. Après, donc, il fallait voir les entrailles d'un animal. Et puis, il fallait aussi voir des signes du destin. Par exemple, un corbeau qui se posait sur le bateau et commençait à crier. Non, alors là,
voilà,
c'est
jamais.
Mauvais.
Voilà. Et on puis, arrêtait
avait,
tout.
Ah, oui. Et puis, il y avait on demandait aussi aux passagers, ou bien, ils ne demandaient pas, mais si on avait rêvé un sanglier, ou bien, je sais pas, un truc comme ça, les sangliers, c'était directement une tempête. Donc, il fallait pas aller ça. Donc, c'était tout ça mis ensemble. Naturellement, si on voyait dans les flots un morceau de bois qui flottait, alors ça, c'était un signe de naufrage. Donc, il fallait que tout ça soit en ligne et alors on pouvait partir. Et c'était une façon de ne pas naufrager. Mais j'imagine que la Méditerranée soit le plus grand musée de la planète sur son fond.
Vous parlez d'un million d'épaves en Méditerranée.
Si vous faites un
compte, pas seulement romaines, grecques, phéniciennes.
Avec tout ce qu'il y a, les colonnes, les statues, regardez les bronzes de Riachi qui ont été tirés. On trouve n'importe quoi sur le fond, ils sont encore là. Donc, c'était pas sûr de partir. C'était pas sûr de partir et surtout pas sûr de. On n'était pas sûr d'arriver, c'était ça le problème.
Alors ces Romains en voyage nous paraissent très familiers, on les suit et dans le cadre de ces voyages quasi touristiques, on découvre un certain nombre de choses. Par exemple, la différence des goûts. Alors vous évoquez un breuvage, puisqu'il y a beaucoup de vin, mais il y a aussi des breuvages qui ont un grand succès dans l'Empire romain et notamment un breuvage qui semble dégoûtant que vous décrivez, qui s'appelle le garum, qu'on consomme beaucoup en Hispanie, donc autrement dit en Espagne. Qu'est-ce que c'est ces faits de poisson pourri mélangé à de l'alcool,
mélangé au sel. On laisse du poisson et des entrailles, surtout du poisson, pendant quelques semaines dans le sel. Et puis ce qui reste là, c'est quelque chose d'abominable, mais on le passe, on le filtre. Et puis il y a différentes qualités de ce produit qui est.
On a reconstitué ça.
Absolument.
Vous l'avez goûté.
Ouais. Et il faut vous dire que il peut pas être vendu parce qu'il y a des règles pour la santé. Donc, on est bien au-delà des règles de la santé. Mais ce qui frappe, c'est deux choses. Ça sent le poisson et c'est très salé. C'est un liquide très salé. Je me suis dit, mais à quoi ça sert? Et puis un archéologue m'a expliqué, écoute. Sur les tables des Romains, il n'y avait pas le sel. C'était ce liquide, c'était un sel liquide qui sentait le poisson. C'est quelque chose de très raffiné.
Mais c'est un condiment,
alors. Exactement, qui était mis sur les mets. Donc, c'est pour ça que personne ne buvait ça. C'était un condiment qui allait sur les mets et ça donne cette idée de repas très raffiné. Les Romains avaient des niveaux très raffinés, semblables à ce qu'on voit aujourd'hui un peu dans la cuisine italienne, mais surtout la cuisine moyenne-orientale et aussi asiatique, où il y a du salé, du doux qui sont ensemble, il y a des épices. Le vin même, c'était pas un vin qu'on qu'on est aujourd'hui. Le vin qu'on connaît aujourd'hui, c'est un vin normal. Il y avait ce genre de vin à l'époque romaine, mais il y avait aussi d'autres genres de vin. C'était du miel. C'est du genre de miel qu'il fallait allonger avec de l'eau chaude en hiver et de l'eau froide en été. Et on mettait des épices. Bon, c'était très alcoolique et il faisait un toast toutes les fois que ça arrivait. Par exemple, un toast pour le nom de la personne qui avait l'anniversaire. Et les Romains, ils avaient des noms très longs. Donc, vous imaginez le résultat.
Voilà, et ce doudouk nous emmène en Arménie, qui est pas encore d'ailleurs la pointe la plus orientale du voyage, puisque Alberto Angela, votre sesterce, va aller jusqu'en Inde. Et ça nous montre que la route de la soie, la route du commerce jusqu'à l'Inde, était bel et bien en vigueur du temps de l'Empire romain. Et les belles romaines élégantes se vêtissaient de soie.
Absolument. Et sur les tables, dans les banquets, il y avait les épices asiatiques qui venaient de l'Inde, notamment le poivre, qui était une chose très, très, même très, très, très coûteuse. Il faut dire que dans ce livre, le sesterce passe de main en main, mais ses mains sont vraies. C'est-à-dire, l'histoire est vraisemblable. Tous les sites sont cités. Dans beaucoup de ces sites, j'ai travaillé en tant que pour faire du tournage. Je connais bien le niveau de la couleur ou de l'orientation du soleil. Certains aides, ça m'a aidé beaucoup. Mais surtout, j'ai essayé de faire en sorte que les personnes qui prennent en main le sesterce soient vraies. C'est le fruit d'une longue recherche sur des épigraphes, sur des tombeaux, etc. Et il fallait que ce soit vrai à cette époque, qui vivait dans cette ville avec ce métier. Bon, et finalement, ce sesterce part de la mer Rouge et on découvre que les Romains allaient tous les deux jours, il y avait un voilier qui partait pour l'Inde selon des saisons, naturellement avec les moussons ça changeait, mais c'était plus ou moins ça le rythme. Et les Indiens connaissaient très bien les Romains et en plus dans une carte qui est conservée à Vienne. C'est une copie du Moyen-Âge d'une carte romaine originelle qui était longue de 7 mètres. C'était une espèce de Google Map d'époque. On voit que dans le sud de l'Inde, il y a un temple dédié à Auguste. Donc, il y avait des ports avec des marchands romains qui vivaient en Inde.
Donc, de fil en aiguille, on peut dire que Rome était en contact avec la Chine par proximité de caravanes.
Les Chinois connaissaient Rome et Rome connaissait la Chine. Et dans cette carte, on voit le nom de la Chine qui s'appelle Serica Major, c'est-à-dire la soie majeure.
Alors évidemment, tout ça fait référence à l'importance des cours d'eau, qui d'ailleurs a été chez nous évidente jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Hein. On fonctionnait par bassin hydrographique. Et puis tout le soin apporté aux routes. Ces routes qui ressemblent aux nôtres, on n'a pas le temps de développer encore Alberto Angela, mais avec tout ce qui se passe au bord des routes dans votre livre, on se rend compte qu'on est en pays familier.
Absolument. Il y a une chose très intéressante, c'est au bord des routes, on trouve par exemple les tombeaux des Romains, parce qu'il était interdit d'enterrer quelqu'un dans une ville, mais à l'extérieur, oui. Et sur les tombes des Romains, on voit toujours des conseils aux vivants. C'est extraordinaire.
Et puis les auberges et les petits marchands de bord des routes. Merci Alberto
Merci
Angela. C'est un voyage absolument magnifique qu'on peut faire cet été. Ça s'appelle Empire, un fabuleux voyage chez les Romains avec un sesterce en poche, publié chez Payot. Et justement, puisqu'on parle des routes, les routes romaines ont également inspiré Jacques de Saint-Victor qui a consacré à la Via Appia un livre récent, Via Appia voyage sur la plus ancienne route d'Italie aux éditions des Équateurs et puis aux mêmes éditions Payot qui vous publient le travail du professeur Yves Roman, Rome de Romulus à Constantin, histoire d'une première mondialisation. Donc c'est aussi la même approche que vous mais en des termes plus scientifiques, disons. Voilà, on termine dans cette mixité, cette fois musicale, avec Kengo Saito, qui associe son héritage japonais à son goût pour la musique afghane, un album qui va sortir le 24 juin. Et on pourra le voir lui-même, Kengo Saito, le 28 juin, au studio de l'Ermitage à Paris. Tout un monde, le magazine des cultures se termine. À la prise de son, Olivier Dupré, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Et on plonge dans le passé, encore une fois, avec Vincent Charpentier, toujours sur France Culture. Bonsoir, Vincent.